Le tempo de l'histoire, un mardi par mois, à 22h, sur Radio Campus Paris.
Bonjour à tous. L'histoire est rythmée par la musique de tous les temps, ou bien c'est la musique qui donne le tempo de l'histoire. C'est ce que nous allons découvrir dans cette émission. Nous allons parcourir les époques en compagnie de personnages historiques. Eux aussi, leur vie fut rythmée par la musique de leur époque. Aujourd'hui, nous allons nous transporter au XVe siècle avec François Ier, puis nous dresserons un rapide portrait de Michel de Montaigne. Enfin, nous terminerons par les années d'après-guerre. François Ier, né sous le nom de François d'Angoulême le 12 septembre 1494 à Cognac et décédé le 31 mars 1547 à Rambouillet, est un roi de France ayant régné du 25 janvier 1515, jour de son sacre, jusqu'à sa mort en 1547. Fils de Charles d'Orléans et de Louise de Savoie, il appartient à la branche de Valois-Angoulême de la dynastie capétienne. François Ier est considéré comme le roi emblématique de la période de la Renaissance française. Son règne, ponctué de guerres et d'importants faits diplomatiques, permet néanmoins un développement important des arts et des lettres en France. Il possède un puissant rival en la personne de l'empereur Charles Quint et doit compter sur les intérêts diplomatiques du roi Henri VIII d'Angleterre, toujours désireux de se placer en allié de l'un ou l'autre camp. François Ier enregistre succès et défaites, mais interdit à son ennemi impérial de concrétiser ses rêves, dont la réalisation toucherait l'intégrité du royaume de France. L'antagonisme des deux souverains catholiques entraîne de lourdes conséquences pour l'Occident chrétien. Il facilite la diffusion des idées de la réforme naissante et surtout permet à l'Empire ottoman de s'installer aux portes de Vienne en s'emparant de la quasi-totalité du royaume de Hongrie. La constitution de ce qui deviendra sous les Bourbons la monarchie absolue et les besoins financiers liés à la guerre et au développement des arts induisent la nécessité de contrôler et optimiser la gestion de l'État et du territoire. François Ier introduit une série de réformes touchant à l'administration du pouvoir et en particulier à l'amélioration du rendement de l'impôt, réforme mise en œuvre et poursuivie sous le règne de son fils et successeur Henri II. Dans son château de Villers-Cotterêts en 1539, François signe l'ordonnance royale élaborée par le chancelier Guillaume Poyer qui fait du français la langue officielle exclusive de l'administration et du droit, en lieu et place du latin. Le même document impose aux prêtres d'enregistrer les naissances et de tenir à jour un registre des baptêmes. C'est le début officiel de l'état civil en France. C'est grâce à cette ordonnance et d'autres lois qu'il va pouvoir affirmer son pouvoir administratif.
Le 25 août 1539, François Ier, roi de France, signe l'ordonnance de Villers-Cotterêts, dont l'un des articles établit que les actes légaux et notariés, jusqu'alors en latin, doivent dorénavant être rédigés en français. Mais cette langue reste l'apanage de l'élite. Il faut attendre le XXe siècle pour qu'elle devienne celle de tous les Français. Issu d'un latin marqué d'influence germanique, le dialecte français est adopté par les rois de l'Île-de-France à la fin du premier millénaire. Dès le Moyen Âge, ce vieux français porté par l'essor des monarques chrétiens s'affirme comme la langue du raffinement et de l'élégance, celle du roman courtois. Il remplace peu à peu le latin et à la Renaissance, avec l'ordonnance de Villers-Cotterêts, il est promu langue juridique et administrative du royaume. Lorsque la France devient la principale puissance démographique et militaire de l'Occident au XVIIe siècle, le français s'impose comme la langue de la diplomatie et de l'aristocratie en Europe. C'est la langue du roi, parlée par un quart seulement de la population du royaume, une langue officielle, courtisane et aristocratique, sur laquelle veillent les académiciens. Les conquêtes royales et l'exode des protestants l'exportent hors de France, en Louisiane et au Canada, où les colons sont les premiers à réaliser l'unité linguistique alors inexistante en métropole. Avec la Révolution, le français est proclamé langue de la nation tout entière, mais c'est la bourgeoisie qui la confisque pour en imposer le bon usage. Discrédité dans les cours européennes par les guerres napoléoniennes, l'expansion coloniale la répand en Afrique et en Asie. Le français devient une langue mondiale présente sur 5 continents. Mais en France, il faudra attendre l'instauration de l'enseignement primaire obligatoire en 1880 et le brassage des populations lors de la Première Guerre mondiale pour que disparaissent les patois et que le français s'impose partout. C'est aussi le début du déclin. Avec la montée en puissance des États-Unis à l'issue de la Grande Guerre, l'anglais supplante progressivement le français comme langue des échanges internationaux.
En 1539, la musique classique a connu des évolutions significatives. Les chansons spirituelles néerlandaises ont été presque entièrement consacrées à un répertoire de chansons spirituelles avec des mélodies. Fabrizio Dantis, un compositeur italien, a été l'un des premiers à publier un ouvrage entièrement consacré à ce répertoire. La musique polyphonique a également commencé à se développer avec des compositeurs comme Ottaviano Petrucci, qui a été le premier à imprimer un recueil de musique polyphonique. Ces événements marquent une période de transition vers des styles musicaux plus complexes et variés. Michel Ekem, seigneur de Montaigne, plus connu sous la simple dénomination de Montaigne, né le 28 février 1533 au château de Saint-Michel de Montaigne, province de Guyenne, et décédé le 13 septembre 1592 dans la même ville, est un philosophe, humaniste, écrivain, érudit et moraliste français de la Renaissance. Éduqué enfant puis adolescent par son père, Pierre Ekem de Montaigne, dans la ferveur humaniste et polyglotte, le jeune Michel Ekem se mue en étudiant batailleur et aventureux, menant une vie itinérante parfois dissolue. Devenu pleinement adulte, homme à la santé allègre, de caractère bouillonnant mais toujours avide lecteur, il entame en 1554 à la cour des aides de Périgueux un parcours professionnel au sein de la magistrature de la province de Guyenne qui le mène en 1556 au Parlement de Bordeaux où il va détenir une charge de conseiller pendant 13 ans. Il y noue une progressive et solide amitié avec un collègue, Étienne de la Boétie, dont la mort en août 1563 le bouleverse tout en lui donnant l'occasion de concrétiser ses conceptions philosophiques stoïques. Muté à la chambre des enquêtes, il devient un diplomate de premier plan dans ces temps de guerre de religion, catholique sincère et ambigu, mais opposé aux ligueurs et fidèle au roi de France. Après sa retraite en octobre 1571, il devient gentilhomme de la chambre du roi avec le titre de chevalier de l'ordre de Saint-Michel. À la mort de son père en juin 1568, Michel hérite de la terre et du titre de seigneur de Montaigne. Désormais riche, il peut quitter sa charge de magistrat diplomate. En juillet 1570, Montaigne se consacre à l'écriture et à l'édition. Cet art de l'otium ne l'empêche pas de prendre une part active à la vie politique en Aquitaine. Il est à deux reprises maire de Bordeaux de 1581 à 1585, puis au début de la 8e guerre de religion et un des négociateurs clés entre le maréchal de Matignon, gouverneur de Guyenne, et Henri de Bourbon, roi de Navarre, héritier présomptif du roi de France Henri III et chef du parti protestant. Comme nombre de catholiques modérés, il continue de soutenir le roi de Navarre devenu roi de France en 1589, Henri IV. Probablement dès la fin mars 1578, il constate qu'il est victime de petits calculs urinaires et en 18 mois, la gravelle, maladie responsable de la mort de son père, s'aggrave et s'installe durablement. Désormais, le plus souvent souffrant ou malade, il cherche à hâter ses écrits et à combler ses curiosités. Il essaie ainsi de guérir en voyageant vers des lieux de cure, puis voyage vers les contrées qui l'ont fasciné durant sa jeunesse. Les essais entrepris en 1572 et constamment continués et remaniés jusqu'aux derniers mois avant sa mort sont une œuvre singulière, tolérée par les autorités, puis mise à l'index par le Saint-Office en 1676. Ils ont nourri la réflexion des plus grands auteurs en France et en Europe, de Shakespeare à Pascal et Descartes, de Nietzsche et Proust à Heidegger. Le projet de se peindre soi-même, pour instruire le lecteur, semble original si l'on ignore les confessions de Saint-Augustin. « Je n'ai d'autre objet que de me peindre moi-même. Ce ne sont pas mes actes que je décris, c'est moi, c'est mon essence. » Saint-Augustin, dans ses confessions, retraçait l'itinéraire d'une âme passée des erreurs de la jeunesse à la dévotion au Dieu de Jésus-Christ, dont il aurait eu la révélation lors d'un séjour à Milan. Jean-Jacques Rousseau cherchera à se justifier devant ses contemporains. Stendhal cultive l'égotisme. À la différence de ces trois-là, Montaigne développe l'ambition de se faire connaître à ses amis et parents, celle d'explorer le psychisme humain, de décrire la forme de la condition humaine. S'il proclame que son livre ne sert à rien au lecteur, parce qu'il se distingue des traités de morale autorisés par la Sorbonne, Montaigne souligne tout de même que quiconque le lira pourra tirer profit de son expérience. Apprécié par les contemporains, la sagesse des essais s'étend hors des barrières du dogmatisme et peut en effet profiter à tous, car chaque homme porte la forme entière de l'humaine condition. Le bonheur du sage consiste à aimer la vie, à la goûter pleinement. C'est une perfection absolue et pour ainsi dire divine que de savoir jouir loyalement de son être. Claude Goudimel est un compositeur français né vers 1515 et décédé en 1525. Voici Claude Goudimel du fond de ma pensée.
Ma clame, José.
Le tempo de l'histoire, un mardi par mois, à 22h, sur Radio Campus Paris.
En 1939, Otto Hahn et Fritz Strassmann apportèrent la preuve de la faisabilité de la fission de l'uranium par bombardement de neutrons. Frédéric Joliot-Curie, Hans von Alban et Lev Kovarsky démontrent expérimentalement que la réaction en chaîne peut se produire. Le procédé théorique et le principe de détonation amélioré par la force de séparation des atomes fut élaboré collectivement en France par Hans von Alban, Frédéric Joliot-Curie et Lev Kovarsky, qui sont à l'origine du dépôt du brevet d'invention portant sur le perfectionnement aux charges explosives sous le numéro 971-324 le 4 mai 1939 par la Caisse nationale de la recherche scientifique. Les co-inventeurs avaient évidemment caché l'existence de leur brevet aux occupants allemands. Le brevet est dès son dépôt classé « secret défense » grâce à l'action de Frédéric Joliot et de son équipe qui fit de la France le premier pays à comprendre l'importance de l'énergie nucléaire, militaire et civile. En raison de la guerre, le brevet ne sera délivré que le 12 juillet 1950 et tomba dans le domaine public en 1959. Ce brevet décrit, bien avant les travaux du projet Manhattan, le principe de fonctionnement d'une bombe A. Il établit notamment le mécanisme de détermination de la masse critique et de séparation en masse sous-critique rapprochée lors de la mise à feu. Il était présenté en vue de servir pour des travaux de mine et pour des travaux publics, mais pas encore pour la constitution d'engins de guerre. S'y ajoutaient quatre autres brevets déposés de 1939 à 1940 et portant sur la production d'énergie. Ces brevets ont rapporté peu de redevances au regard de leur importance. Une part de l'argent obtenu est affectée à la recherche scientifique via l'attribution de bourses. Du fait de la défaite de la France en 1940, c'est aux États-Unis que la première bombe atomique fut mise au point et assemblée durant le projet Manhattan. Ce projet est mis sur pied à la suite d'une lettre signée par Albert Einstein aux opinions pacifistes adressée au président des États-Unis Franklin Delano Roosevelt. Dans cette lettre, dite « lettre Einstein-Szilard », datée du 2 août 1939, Einstein ainsi que d'autres physiciens expliquent à Roosevelt que l'Allemagne nazie effectue des recherches sur la fission nucléaire et ses applications possibles dans le domaine militaire, comme la création d'une bombe atomique. Einstein explique que cette bombe est capable de libérer une énergie si colossale qu'elle pourrait détruire une ville entière. Le 14 août 1940, le Comité consultatif pour l'uranium, un organisme fédéral créé par Roosevelt, après avoir pris connaissance de la lettre, demande dans un mémorandum la création d'un projet de recherche sur le thème de la fission nucléaire et sur ses applications militaires. Une somme de 100 000 $ est débloquée. La première étape consiste en l'enrichissement de l'uranium naturel en uranium-235 fissile, c'est-à-dire que son atome peut se casser et produire une réaction de fission nucléaire. Durant cette étape de recherche, un second élément fissile est découvert, le plutonium. Alors que jusque-là, le projet avait uniquement un but expérimental avec pour objectif de valider la réalisation d'une bombe atomique, il est décidé en octobre 1941, au vu des résultats, de passer au stade du développement. Le projet Manhattan vient de voir le jour. Des milliers de chercheurs mis au secret vont développer cette arme. Plusieurs laboratoires sont construits un peu partout aux États-Unis, comme dans le Tennessee, à Washington et enfin le plus célèbre, le LANL de Los Alamos, au Nouveau-Mexique, en mars 1943. Le laboratoire national de Los Alamos est dirigé par le physicien Robert Oppenheimer. Il est entouré par une brillante équipe de physiciens parmi lesquels quatre prix Nobel de physique, Niels Bohr, James Chadwick, Enrico Fermi et Isidore Isaac Rabi. Durant 2 ans, ils vont surmonter un grand nombre de problèmes techniques, aidés par un budget de 2 milliards de dollars. Ils développent les deux filières, uranium et plutonium, en parallèle. Au début de juillet 1945, s'ils disposent de bombes opérationnelles dans chacune des filières, ils ont encore un doute sur la bombe au plutonium. Ils décident donc que le premier test portera sur cette technologie. Le 16 juillet 1945, sur la base aérienne d'Alamogordo, la première bombe atomique, Gadget, explose lors d'un test baptisé Trinity. La petite histoire dit que Kenneth Ben Bridge, le responsable des essais, glissa à l'oreille de Robert Oppenheimer qui avait déclaré « I am become death, the destroyer of worlds, maintenant je suis la mort, le destructeur des mondes, après l'explosion, now we are all sons of bitch, à partir de maintenant, nous sommes tous des fils de pute ».
C'était il y a un peu plus de 70 ans, le 6 août 1945. Un avion américain décolle de sa base, direction Hiroshima. La bombe atomique est pour la première fois utilisée en temps de guerre. Pour les Japonais, c'est une immense boule de feu, puis une onde de choc, qui tue des dizaines de milliers de personnes sur le coup. D'autres voient leur peau fondre et se détacher. À l'épicentre, les températures avoisinent les 7000 degrés.
Ils étaient comme des zombies. Certains se jetaient dans la rivière pour soulager leurs brûlures, mais beaucoup se sont noyés.
On ne parle pas de quelques corps. Il y en avait partout. On pouvait à peine marcher.
Dans les mois suivants, des dizaines de milliers de Japonais irradiés meurent lentement dans d'atroces souffrances. Un destin que partagent les habitants de Nagasaki, bombardés 3 jours plus tard. Côté américain, on considère que l'utilisation de la bombe était justifiée puisqu'elle a mis fin à la guerre. Mais au Japon, on perçoit ces deux journées d'août 45 comme des attaques contre des civils innocents.
Pour l'humanité, Hiroshima est une erreur humaine qui a mené à une catastrophe. Ça ne nous intéresse pas d'ergoter avec les États-Unis.
Désireux d'oublier les horreurs de la guerre, beaucoup de Japonais ne réclament pas d'excuses, mais appellent à ne plus jamais utiliser l'arme nucléaire. Un point de vue partagé par Barack Obama, premier président américain, à se rendre à Hiroshima.
C'est essentiel pour lui de travailler à un monde dénucléarisé. Il en a parlé à Prague en 2009 et il a remporté le prix Nobel de la paix, notamment pour ça.
Une visite symbolique qui rouvre les blessures du passé, mais tente de montrer une voie pour l'avenir, avec l'engagement contre la prolifération des armes nucléaires.
3 semaines après l'essai réussi Trinity, dans la matinée du 6 août 1945, le président Harry Truman, qui a succédé à Franklin Roosevelt, décédé le 12 avril, donne l'ordre de larguer une bombe atomique sur un objectif civil, la ville d'Hiroshima, avec pour objectif de faire capituler le Japon. Cette bombe fut surnommée par l'armée américaine « Little Boy », petit garçon, du fait de sa petite taille, et « Picadon », lumière et bruit, par les Japonais. La bomba, à l'uranium enrichi, de type revolver, détonna en expulsant une énergie équivalente à environ 15 kilotonnes de TNT. Il est difficile de connaître avec précision le nombre de personnes tuées par l'explosion. Le département de l'énergie des États-Unis estime quant à lui le nombre de personnes tuées instantanément à environ 70 000 et environ 200 000 personnes supplémentaires dans les 5 années qui ont suivi.
Tonight I hold him tight when the moon beam shine. My dreams are getting better all the time.
Le 9 août, trois jours plus tard, Truman donne l'ordre de larguer une seconde bombe. La ville de Kokura, actuellement Kita-Kyushu, étant la cible primaire. Mais celle-ci étant recouverte par des nuages, c'est Nagasaki, cible secondaire, qui est alors visée. Lors d'une éclaircie, le bombardier confond les usines Mitsubishi sur les quais du port avec la cathédrale chrétienne. La bombe larguée, cette fois-ci, est au plutonium, à une puissance de 22 kilotonnes et est surnommé Fat Man, gros bonhomme. Tout comme pour Hiroshima, le nombre de décès est difficile à définir. Le département de l'énergie des États-Unis estime qu'il y a eu environ 40 000 personnes tuées instantanément et 60 000 autres blessées. En janvier 1946, il était estimé qu'environ 70 000 personnes étaient décédées des conséquences de l'explosion et peut-être le double dans les 5 années suivantes.
Je crois que ce qui est unique pour le savant, c'est qu'il lui faut non seulement chercher la vérité, mais la proclamer.
Je crois pouvoir vous dire, je crois devoir vous dire même que l'émission à laquelle vous allez assister ce soir n'est pas une émission comme les autres. Sans doute vous a-t-on dit cela déjà à propos d'autres émissions, mais ce soir seulement c'est vrai. Ce n'est pas une émission comme les autres et voici pourquoi. D'abord, c'est parce que l'homme qui est en ce moment à côté de moi, que vous allez voir dans quelques instants et que j'ai ce soir le redoutable et intimidant honneur de vous présenter, n'est pas un homme comme les autres. C'est, en effet, le professeur Robert Oppenheimer, dont je n'ai pas besoin de vous rappeler, j'imagine qu'il est le père de la bombe atomique, de la bombe A, et qu'à ce titre, c'est lui qui a ouvert cette ère atomique, cet âge atomique, qui sans doute pendant longtemps encore nous plongera alternativement dans l'angoisse et dans l'espoir. Oppenheimer a régné sur la première grande cité atomique de Los Alamos et il dirige aujourd'hui aux États-Unis une université qui elle non plus n'est pas comme les autres, qui est l'Institut des études avancées de Princeton.
Je crois que le savant doit chercher la vérité. Et s'il en trouve, il doit l'expliquer, il doit enseigner, il doit être sûr que ce qu'il a trouvé est bien compris. Le plus souvent, on le fait en publiant, en écrivant, en parlant, comme nous le ferons à Paris ces journées.
Voilà, cette émission est maintenant terminée. Vous pouvez bien sûr retrouver, comme d'habitude, tous les podcasts de l'émission sur le site de Radio Campus Paris. À bientôt.
Le tempo de l'histoire, un mardi par mois, à 22h, sur Radio Campus Paris.